Mesdames et messieurs, nous entamons notre descente vers les escales siluriennes. Pour les voyageurs à destination d'Anarkia, merci de changer de vaisseau. Retrouvez toutes les présentations des escales siluriennes sur www.libradio.org.
Du coup, je peux juste introduire C'est Marianne et Anne, et puis elles travaillent toutes deux à la librairie, et puis elles vont nous parler un petit peu justement de comment elle s'est créée, et puis comment elle fonctionne maintenant, et puis de leur expérience, voilà, en son sein.
Bonsoir, Anne de la librairie du boulevard, entre-temps une des plus anciennes à la librairie du boulevard, ça me fait tout drôle. J'ai commencé il y a 20 ans, j'étais la dernière venue, mais non, je suis la dernière venue. Donc la librairie du boulevard, j'imagine la plupart des gens la connaissent, mais quand même un petit historique. Donc on existe depuis février 1975. Le début, c'est... l'idée était venue à un groupe de gens qui avaient voyagé en Amérique latine, qui avait vu, années 60, années 70, la presse indépendante en Amérique latine. Ils sont revenus et trouvaient ça super, ils voulaient créer quelque chose comme ça en Suisse. Vu que ça n'existait pas du tout, des revues indépendantes, distribuées quelque part, ça se faisait un peu par des individus, mais il n'y avait pas un lieu vraiment créé pour ça. Donc ils se sont mis ensemble avec plein de gens pour reprendre en fait un kiosque anarchiste. Il devait payer un pas de porte, comme ça se fait toujours. Et pour pas prendre de crédit, ils ont créé une coopérative, d'où en fait la forme juridique de la librairie de boulevard, donc une coopérative. Donc on n'a jamais eu un crédit à la banque. Donc on n'a jamais payé le crédit, c'est super. Et puis, au début, ils étaient une centaine de coopérateurs et coopératrices qui ont quand même tous souscrit à des parts sociales. Il y avait aussi deux, trois demi-parts sociales, ce qui était vaguement moins légal, de 1000 francs à l'époque. Les parts sociales, c'est toujours 1000 francs, mais à l'époque, ça valait quand même un peu plus que maintenant. Entre-temps, on a à peu près 200 coopérateurs et coopératrices qui, il y en a qui ont plusieurs parts sociales, il y en a qui ont une seule, il y en a toujours qui ont une demi-part. La différence entre une coopérative et une AG, c'est en fait que c'est pas par part sociale qu'on a en vote, par personne physique. Donc c'est une personne en vote, si jamais. Donc au début, ils étaient, je crois, quatre, quelque chose comme ça, qui ont repris ce kiosque, qui on l'a appelé kiosque du boulevard. Au début, ça vendait du tabac et des revues.
Et des cigares, j'ai lu.
Et des cigares, Parce que tombe sous le tabac. Des cigares, Cuba, On voit l'inspiration. Ils ont assez vite engagé. Ils ont tout de suite dit on va essayer de faire de sorte que tout le monde peut vivre de ça. Donc que ce ne soit pas un truc qu'on fait à côté d'un boulot en plus, mais qu'on va vraiment faire ça comme notre boulot pour que ce soit pérenne. Et pas juste une chose qu'on fait pendant 2 ans et après on doit gagner plus d'argent et on fait autre chose. Donc tout le monde a travaillé à temps partiel dès le début. Tout le monde a plus ou moins fait les mêmes choses. Mais évidemment, ils ont dès le début, par exemple, dit la comptabilité, chacun prend une partie. Évidemment, la comptabilité, c'est en gros la chose qui règne, les chiffres qui règnent sur un commerce. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont fait chacun une partie de la comptabilité pour que tout le monde soit vraiment au courant de tout, des chiffres, de ce qu'on vend en kiosque. Donc ils ont assez vite engagé une libraire et du coup, ils ont commencé à à être un peu plus professionnelle, à avoir des livres qui, à l'époque, n'étaient pas du tout distribués ou diffusés en Suisse. Donc ils ont fait des descentes en camionnette en France, ont acheté des livres, les ont transportés, voilà, les ont vendus. Et puis, au fur et à mesure, la librairie a grandi. Jusqu'à maintenant, on est 7 personnes, plus 2 apprentis. Donc, ils ont très vite commencé à former des apprentis. Ce qui a aussi fait un peu le renouvellement de l'équipe. Parce que le premier apprenti qu'ils ont formé, il travaille toujours à la librairie. Donc, et puis... évidemment, on ne peut pas toujours engager des apprentis parce qu'on a toujours 2 apprentis, c'est 3 ans de formation, donc si on engageait tout le monde, la librairie du boulevard sera paillot. On n'est pas paillot. On essaye, si on peut, d'engager nos apprentis, mais rarement. Mais ça, ils reviennent. Là maintenant, il y a une apprentie qui avait tenu l'ivresse pendant 13 ans et puis qui est revenue au boulevard après 13 ans d'un autre endroit. C'est un peu l'histoire, je crois.
Du coup, moi, j'ai pas du tout l'historique parce que ça fait même pas un an que je suis au boulevard, mais je peux vous parler de comment ça marche maintenant. Donc aujourd'hui, notre organisation, donc on est 7, comme disait Anne, plus 2 apprentis. Donc les 7 libraires font partie du collectif. C'est les 7 personnes qui prennent les décisions tous ensemble. Les coopérateurs n'ont pas de pouvoir décisionnaire sur la librairie, c'est-à-dire qu'on leur rend des comptes sur notre comptabilité, nos bénéfices, nos projets, les départs, les arrivées, les embauches. On leur rend des comptes une fois par an lors de l'AG, mais ils n'ont aucun pouvoir décisionnel. C'est vraiment nous 7 qui décidons de ce qu'on veut faire, ce qu'on veut créer, ce qu'on veut changer, etc. Comment ça se passe du coup cette autogestion? Il n'y a aucune hiérarchie entre nous 7. On a exactement le même statut de libraire, le même degré de responsabilité. En revanche, on ne fait pas tous la même chose. C'est-à-dire que quand on est au magasin, à la vente, on fait tous un peu tout. On s'occupe des clients, on fait les arrivages à l'arrière du magasin, etc. En revanche, il y a toute une énorme part de travail administratif pour gérer l'entreprise, qu'on se répartit entre 7. Et là, chacun a des tâches des tâches attribuées. Alors, je ne sais pas si à une époque, elle tournait ses tâches.
Oui, mais
j'ai vu qu'elle avait un tournus avant des tâches administratives.
Oui, au début, on essayait de vraiment faire que tout le monde sache vraiment tout faire. À peu près tous les 2-3 ans, ça changeait les tâches. Quand je suis arrivée, ça avait déjà un peu ralenti parce qu'effectivement, disons, le fait qu'on est plus professionnel, qu'on gère beaucoup plus de volume, que la comptabilité est devenue beaucoup plus compliquée. Ça a induit aussi le fait que en fait, si on changeait tous les 2 ans, c'est un monstre boulot quand même de transmission chaque fois. Et puis en plus, c'est pas tout le monde qui a vraiment une affinité avec toutes les choses. Donc on s'est dit, on va essayer de changer, mais ça s'est beaucoup ralenti.
Ouais. Parce que ça se fait aussi, on a tous le même statut, tous le même niveau hiérarchique, etc. Mais on n'a pas tous les mêmes envies, ou les mêmes appétences, ou les mêmes compétences, ou la même expérience aussi de nos vies professionnelles précédentes. Et donc forcément, ça se répartit aussi comme ça, nos tâches administratives. Il y a certains qui sont plus attirés par, la communication sur les réseaux sociaux, ou créer des flyers ou ce genre de choses, d'autres qui ont plus une expérience juridique ou qui mettent les mains dans la comptabilité depuis plus longtemps et qui continuent à faire ça. Effectivement, le partage des tâches sur ces responsabilités administratives, il est assez relatif, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps non plus de faire de la formation continue et d'apprendre tous ce que font les autres. C'est-à-dire que là, ça nécessiterait de dégager presque, enfin, presque des heures d'auto-formation en soi, et on n'a pas vraiment le temps de le faire. Donc on s'est redit récemment que ça serait bien de, malgré tout, de mettre le nez dans ce que font les autres au quotidien, déjà pour apprendre personnellement de nouvelles compétences, mais aussi pour pouvoir pallier à l'absence de l'un ou de l'autre, voilà, si ça devait arriver, ou pendant les vacances, etc. Donc voilà, on a vraiment ce partage entre la présence en magasin, où on fait vraiment tous exactement les mêmes choses, que ce soit de la petite, enfin vraiment du balayage du pas de porte au conseil aux clients. On n'a pas de rayon non plus attribué à chacun, c'est-à-dire que tous les libraires s'occupent de tous les rayons, donc on est censé être un peu spécialiste de tout, polyvalent, enfin voilà, de toucher un peu à tout. Il n'y a pas de chasse gardée, je sais pas s'il y en a eu, mais en tout cas il n'y en a plus trop de chasse gardée sur des rayons. Voilà, donc là on est très 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 polyvalent, et par contre les tâches administratives, elles sont assez segmentées. Voilà.
En fait, peut-être on a oublié une des choses les plus importantes, parce que pour nous c'est tellement évident. Donc la plupart des décisions se prennent par une réunion qu'on a une fois par semaine, qui au début se tenait les lundis soirs, et puis ça devenait genre une réunion qui prenait pas de fin. Alors à un moment donné, on l'a mis à lundi matin, donc personne n'est réveillé. Voilà. Mais du coup, c'est assez concis, parce qu'en plus, maintenant, on ouvre plutôt le lundi. Avant, on ouvrait que l'après-midi, donc des fois, même le matin, ça, voilà, ça s'étirait. Maintenant, on ouvre à 11h30, donc la réunion doit être finie à 11h30, parce que sinon, voilà, on a un problème avec les clients. Donc, tous les lundis matin, nous, on discute de tout.
Alors, on a et super... de tout, hein.
Ouais, de tout. Est-ce que, alors, déjà, on fait le planning de la semaine, voilà, qui est là, bon, s'il y a des choses exceptionnelles, quel représentant est là, voilà, est-ce qu'on a une rencontre le soir. Mais justement, on discute aussi, est-ce qu'on fait une pub quelque part, est-ce qu'on invite telle et telle personne, est-ce qu'on accepte une proposition de telle et telle personne qui veut absolument faire un vernissage chez nous. Est-ce qu'on change la poubelle qui est vraiment moche, ou est-ce qu'on tient encore 2 ans avec la même poubelle? Est-ce qu'on change le parquet? Est-ce qu'on engueule encore une fois la régie, parce que ça fait 6 mois qu'on leur court après? Est-ce qu'on écrit? Voilà, donc toutes les décisions sont prises le lundi matin. Donc ça, voilà, ça ralentit un peu. Quand on doit répondre à quelqu'un rapidement, en général c'est eux, c'est pas très rapide. On va au minimum attendre le lundi suivant pour en discuter. Mais au moins, ça a l'avantage que voilà, on prend les décisions vraiment ensemble. On ne fait pas par vote. Donc, c'est vraiment, on discute. Et puis, voilà, si quelqu'un dit, OK, je m'en fous, faites ce que vous voulez, voilà, on fait. Mais si quelqu'un dit, non, moi, je ne veux pas, on ne fait pas. Donc, c'est vraiment, il faut au moins que les gens, voilà, ils peuvent vivre avec ça, comme on disait. Tout le monde peut vivre avec ça, voilà, c'est un peu comme ça.
Ouais, on discute jusqu'à épuisement des arguments.
Ou à la rigueur, on dit, bon, reprend la semaine prochaine, là, on fait autre chose, hein, tout le monde réfléchit, puis on reprend dans une semaine.
Question, vous avez... quand vous prenez une décision, par exemple, vous cherchez consensus ou bien ce genre de...
Ouais, c'est vraiment la quête du consensus. Ouais. C'est pas strict comme un comptage de voix. C'est vraiment, on essaye d'être à peu près tous d'accord, et ceux qui le sont un peu moins, voilà, c'est soit ils disent, bon, tant pis pour cette fois, je lâche un peu, soit effectivement, comme disait Anne, on renote le sujet dans notre petit carnet de suivi et on en rediscute la fois d'après si c'est toujours pas réglé.
Alors, il y a par exemple des livres où on a des fois des idées très diverses et variées. Est-ce qu'on doit avoir ce livre ou pas? Donc, il y a 2-3 cas.
C'est le principal sujet de débat.
Vraiment, où on, de vrai. Voilà, qui revient régulièrement. Des livres où voilà, une personne le met là, l'autre met à l'autre endroit, le troisième le met au retour parce qu'il est vraiment dans cette librairie, alors une quatrième le ressort. Bref, voilà, ça fait une jolie journée.
Jusqu'à ce qu'on tranche un peu officiellement le lundi matin. Et du coup, voilà, ce lundi matin, ces 2h30 de réunion, elles sont absolument indispensables parce qu'on est tous à temps partiel. C'est aussi un des principes du boulevard de ne pas faire de temps plein. parce que voilà, il n'y a pas que le travail dans la vie, et ça c'est vraiment, ça a été posé dès le départ, il me semble, dans la construction du boulevard, quoi.
Ouais, et puis c'est aussi, vu tout le monde est à peu près au même pourcentage, donc c'est entre 60 et 80%, pour pas qu'il y ait une personne qui sache plus que les autres, et du coup ait plus de pouvoir. Donc voilà, on essaye de garder ça. En dessous de 60%, ça fait pas sens parce que voilà, on est trop en dehors. Donc on n'est plus vraiment au courant de ce qui se passe, etc. Et au-dessus de 80, voilà, ça risque de devenir une prise de pouvoir. Donc on jongle un peu avec ça.
Et du coup, voilà, donc comme on est tous à temps partiel, il y en a qu'on ne croise pas pendant 3 jours. Et donc, la transmission des informations, sans ce moment du lundi, on est vraiment tous les 7, tout le temps là, parce qu'elle est absolument indispensable, enfin obligatoire. Sans ce moment-là, ce serait un peu... Enfin, la communication, la transmission des informations serait... Enfin, il y aurait de la déperdition d'informations énorme, quoi. Même si on essaye de surcommuniquer au quotidien, justement pour que ça roule, mais voilà, c'est vraiment le moment incontournable pour que le collectif et l'autogestion fonctionnent.
J'ai deux petites interrogations après ce que vous venez de dire. Alors la première, c'est juste pour savoir si vous êtes arrivé, au cours de vos réunions du lundi matin, de tomber face à une opposition qui n'arrivait pas à être résolue. Et dans ce cas-là, comment avez-vous fait si vous êtes tombé dans ce cas-là?
Bah justement, donc si on n'arrive pas à résoudre, on la reporte sur la semaine prochaine ou dans 2 semaines, et puis on essaye dans le temps.
Vous l'avez vécu ou pas? Enfin, peut-être pas, hein. Peut-être que ça se passe très très bien et qu'il y a toujours quelqu'un qui finit par dire que finalement ce n'est pas si important que je m'y oppose et puis j'arrête.
Alors en fin de compte, après des reports successifs, en général ça se passe comme ça.
Par épuisement.
Oui. Voilà, c'est un peu ça. Alors non, on ne va pas rediscuter, c'est bon quoi. Voilà, on se laisse on se fait avoir par l'usure.
Et la deuxième question, désolé, j'en avais une paire. La deuxième question, c'était en rapport de ce que tu venais de dire au départ, qui était il fallait que en travaillant là-dedans, on puisse arriver à vivre et qu'on n'ait pas un boulot à côté. Et là, tu viens de dire, vous venez de dire toutes les deux, que vous aviez un travail à mi-temps ou temps partiel.
Ouais, ouais.
Voilà, à temps partiel. C'est compatible avec vous?
Alors, faut dire au début, donc le premier groupe qui avait créé ça, c'était tous des profs qui avaient des épouses profs.
Oui, d'accord.
Donc ça a fortement aidé. Ça, maintenant, ça va. Disons, on est libraire, on vit pas super bien, mais on se paye plus qu'un libraire standard, je dirais. Donc on n'est pas payé comme un libraire cadre chez Payot, mais on est voilà.
Donc c'est vivable en Suisse, quoi.
C'est vivable carrément à Genève. Ouais,
d'accord, à Genève, qui plus
voilà. On prend pas l'avion pour Lisbonne tous les jours.
Ah bon?
Non, non. Mais pour d'autres raisons aussi, mais... Non, mais ça va.
Mais oui, effectivement, on a quand même des salaires supérieurs aux libraires de chez Payot. Enfin, c'est quand même assez notable.
Ouais, parce que tu as...
Bah ouais. Enfin, moi, venant de chez Payot, ayant passé 6 mois chez Payot, je me suis dit, bon, le boulevard, ça va être super. Par contre, c'est sûr que financièrement, ça va être très compliqué. En fait, j'ai eu la bonne surprise de voir que j'étais mieux payée chez Payot.
Non.
Chez au boulevard, pardon.
C'est incroyable.
Et enfin, voilà, c'est quand même assez... Non, parce que voilà, il n'y a pas aussi une direction
en fait,
qui...
Pour une librairie, ouais. Deux apprentis qui, je pense, sont rémunérés d'une façon ou d'une autre.
Ouais, c'est le... Ouais.
Voilà, qui ne travaillent pas gratos, j'espère pour eux.
Non, non, c'est réglé par la CCT. Donc,
voilà, je défends les apprentis aussi. Et donc, c'est bien de savoir que vous arrivez à tirer de ce travail-là quelque chose qui, au moins, permet de vivre, au moins dans le lieu où vous travaillez.
Ouais, ouais.
C'est déjà un signe d'équilibre et de réussite... Le projet qui est marquant.
Ouais, alors il y avait carrément un collègue bon, qui habite à Toulon, mais qui a réussi à se venir aux besoins de lui et de sa compagne avec un salaire de 60% au boulevard.
Ouais.
Donc Donc voilà, ça va.
Mais en France.
En France.
En France, oui, oui, c'est voilà.
Oui,
c'est...
Il faut quand même mettre la.
Voilà, oui, mais quand même.
En Suisse, ça va être plus compliqué, je pense.
Ouais, je crois, en Suisse, ça va être très
court.
Ouais.
Ok, merci bien.
Mais ça, c'est assez important, enfin, de dire que dans le collectif, au-delà du principe de l'autogestion, il y a une attention très forte portée quand même aux conditions de travail. Je trouve personnellement le temps partiel, le salaire quand même qui nous permet de vivre correctement. On a plus de 4 semaines de congé, on a plus de 5 semaines de congé par an. On se paye nos heures sup. Enfin, c'est-à-dire quand même,
on
s'auto-protège quand même. Enfin, oui, on s'octroie à nous-mêmes de quand même des bonnes conditions de travail. Je ne sais pas si ça a toujours été. En fait, ça dépend de la situation financière de l'entreprise aussi. Mais...
Ouais, alors, ouais, on était quand même plutôt, disons, vu qu'il n'y a pas de grands actionnaires qu'il faut payer, ça laisse une marge pour nous. Et puis, à part ça, c'est assez chouette quand on a notre assemblée générale annuelle. Les collaborateurs qui viennent, ils sont plutôt là, mais est-ce que vous vous payez assez? Est-ce que vous arrivez à vivre avec le salaire? Donc, voilà, on sent quand même qu'ils sont derrière nous, et puis, voilà. Que leur souci premier, c'est voilà, est-ce que vous, ça va bien?
Tout ça, c'est financé juste par la vente des livres, donc.
Oui, moi j'avais une question sur la communication au sein de vous, entre vous sept. Est-ce que vous avez des outils supplémentaires que simplement la réunion du lundi et ce fameux cahier de suivi? Est-ce que vous avez estimé à un moment ou à un autre que ça n'était pas nécessaire? Parce que moi, je me rends compte dans certains collectifs dans lesquels je suis, la démultiplication des canaux de transmission de l'information peut des fois être contre-productive. Du coup, je me demandais si vous aviez une mailing list pour vous joindre les 7 parmi, un groupe WhatsApp ou Telegram. Non.
Okay. Non, alors ce qu'on a, donc, en fait, notre organisation par semaine, c'est on travaille toujours en binôme. Plus un apprenti ou une apprentie. Donc on est deux personnes le matin et deux personnes l'après-midi ou trois personnes des fois l'après-midi. Et on a une demi-heure de battement pour faire la transmission de ce qui s'est passé le matin au soir. Et puis on a une sorte de boîte de transmission où ceux du soir peuvent mettre des choses pour ceux du matin pour que voilà, tout le monde puisse être au courant. Ça fonctionne pas très bien. On n'a pas encore trouvé le moyen super pour qu'on regarde vraiment aussi ces boîtes de transmission ou qu'on n'oublie pas de transmettre quelque chose.
Ouais.
C'est voilà, depuis 47 ans qu'on essaye et puis c'est toujours pas abouti. Je sais pas si ça sera un jour vraiment parfait, je crois pas, mais voilà, on s'améliore toujours.
En tout cas, ouais, on n'a pas du tout investi dans la communication technologique. Ouais, ouais, on n'échange pas du tout entre nous par ces moyens-là. C'est vraiment du papier, le petit cahier où on a tout, mais vraiment tout. Par contre, ça, c'est vraiment important que dans cette réunion d'un lundi, on traite tellement tous les problèmes, toutes les questions qu'on a, de ne pas se brimer sur bon, ça, c'est une petite préoccupation, est-ce que je le note ou pas Bah en fait, on le note parce que toute préoccupation est à prendre en compte et tout est absolument traité le lundi, décidé, que ce soit de la petite table qui branle un peu, est-ce qu'on met une cale ou pas, enfin voilà, des beaucoup plus grosses décisions, il n'y a pas de... Enfin, j'ai pas l'impression, enfin, moi je me retiens plus en tout cas de noter des choses à discuter pour le lundi d'après, parce que voilà quoi.
Excusez-moi, la boîte de transmission, c'est ce cahier
ou... Non, alors on a justement, on a une boîte, vraiment une boîte où on met des papiers ou des choses qu'on doit transmettre, vraiment une physique boîte.
Ouais, ouais.
Et puis on a un cahier où on note des choses.
Okay.
Donc, et après on a une four où on met tout le courrier qui arrive par la poste, dont il faut parler. Donc on a plusieurs endroits où on stocke des choses qui doivent être traitées au plus tard le lundi de la semaine qui vient.
Vous aviez encore des choses à dire
Je ne sais pas. Sur l'organisation générale, je pense qu'on a bien fait le tour.
Mm-hmm. Et tu as parlé un peu de ton expérience contrastée.
Moi, c'est surtout mon expérience. Avant, j'étais éditrice, en fait, j'étais pas libraire. Et ça aussi, je découvre vraiment les bienfaits de l'autogestion. On a beau être dans le même univers, le même marché du livre, et c'est la même chaîne du livre, mais entre le fonctionnement d'une maison d'édition qui a tendance en plus à être de moins en moins indépendante et de plus en plus partie prenante d'énormes groupes éditoriaux, et là, un fonctionnement où on n'est que 7, et puis où il n'y a pas d'hierarchie, moi, ça me fait vraiment du bien. Et notamment, je faisais dans ma tête le parallèle avec une maison d'édition à laquelle j'allais travailler qui s'appelle les Éditions de l'Atelier. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. C'est une petite maison d'édition qui est née des jeunesses ouvrières chrétiennes. Et donc, c'est une maison d'édition qui est à la fois très catholique et très communiste. C'est très bizarre. Et donc, on avait notre place ni dans le salon du livre de la fête de l'UMA, parce qu'on se faisait mal regarder, ni au salon du livre religieux, parce qu'on se faisait aussi mal regarder. Mais bref, c'était très particulier. Et on travaillait énormément sur... on publiait énormément de choses sur les conditions de travail, le bien-être au travail, le droit des travailleurs. Donc, c'était vraiment le cœur du projet. C'était un vrai projet de société. Sauf qu'en fait, dans la pratique, le travail, on était... complètement exploité, on bossait 45 heures par semaine pour gagner moins que le SMIC, on gagnait même pas 1000 euros par mois. Cette inadéquation entre le projet théorique et l'organisation pratique du travail, elle était hyper choquante et elle était presque intenable, je trouvais. Et pour le coup, je trouve qu'au boulevard, même si du coup le côté militant est un peu moins fort maintenant, enfin c'est moins prégnant dans la librairie, c'est plus une librairie militante. Enfin, ouais, je pense qu'on peut le dire, ouais. C'est plus une librairie militante. Mais par contre, dans les conditions de travail, ça se ressent. Il n'y a pas de. Enfin, les principes sont appliqués, quoi. Donc, ouais, voilà.
Je voulais savoir si vous avez genre une charte de règles, des choses comme ça. Comment ça se passe s'il y a des conflits entre vous ou...
On n'a rien du tout décrit.
Okay.
Alors même les statuts de la librairie, ils ont acheté à une boîte, je ne sais pas. On a officiellement le nom de la société coopérative du Grec.
Donc personne ne sait ce que
tu veux dire. Si, les anciens, ils savent, mais c'est vraiment un truc obscur.
Donc voilà, il n'y a rien décrit. Okay. Effectivement, il y avait une époque. Alors quand je suis arrivée, c'était juste à une époque où il y avait vraiment beaucoup de problèmes où il y avait justement ce fameux carnet de bord qui était jeté à la face d'une des collègues. Donc ils avaient à un moment donné engagé un médiateur et moi je suis juste arrivée après. Donc en fait, c'est vrai, ce qui nous sauve, c'est vraiment qu'on discute et qu'on peut vraiment tout discuter. Ouais.
Mais est-ce que, par exemple, aussi quand il y a des nouvelles personnes qui viennent, est-ce que c'est des personnes que vous connaissez déjà ? Parce que...
Non.
Pas forcément ?
Non.
Parce que moi, j'ai un peu... J'étais dans... C'est mon deuxième collectif où je suis et j'arrive un peu au hasard et c'est après qu'on sait qui sont les gens vraiment, quoi.
Ouais.
Et du coup, c'est là où ça peut aussi poser des problèmes et j'ai l'impression que si on n'a pas un peu anticipé ça, quand on est confronté à un problème... Il y a souvent un parti pris, et si on n'a pas un référentiel neutre un petit peu, des fois ça peut être compliqué à gérer les tensions.
Alors,
mais je ne sais pas si vous n'avez pas le même cadre aussi. Je sais pas.
Peut-être on a aussi eu vraiment la chance. Ouais. Il y avait des fois aussi des tensions, mais en général, la personne autour de laquelle les tensions sont cristallisées, elle est partie. Mm-hmm. D'elle-même parce que voilà, c'était pas elle sentait elle-même qu'elle n'était pas à sa place. Mais effectivement, un des grands problèmes avec cette autogestion, c'est donc dès qu'une personne arrive, en général, sauf exception notable de après Covid, en fait la personne qui arrive a effectivement les mêmes statuts que la personne qui est là depuis 40 ans. Surtout. Donc aussi, si on devait réduire le collectif et dire OK, on ne peut plus payer autant de personnes, c'est tout le monde qui a le même statut. Donc ce n'est pas le dernier arrivé doit partir. Donc ça, c'est effectivement un problème qui n'est pas résolu. où c'est toujours voilà, où aussi on effectivement on constate qu'une personne est peut-être quand même pas aussi adaptée, voilà, on doit faire avec et puis essayer de donner la possibilité à la personne de se développer, de faire le chemin pour se retrouver aussi dans...
Oui. Parce que j'avais l'impression que justement ce truc de système d'apprenti, si vous les avez 2-3 ans, ça vous permet aussi de, sans vous engager à les prendre après, mais ça vous permet de les connaître aussi.
Bien sûr, c'est pour ça qu'on aime bien prendre ceux où on pense, ah oui, ça pourrait être intéressant. Mais en fait, on a fait l'expérience, donc on a fait une fois repris une apprenti tout de suite après l'apprentissage. Et c'est pour les deux côtés, c'est extrêmement difficile de faire le basculement entre... le statut d'apprenti où on a 7 ou 6 ou selon voilà, combien de membres du collectif il y a, de patron quand même, mine de rien, et devenir membre à part égale de ce collectif. C'est super compliqué. Donc pour le collectif de prendre cette personne comme ouais, t'es notre égal. Et pour la personne aussi d'oser dire, d'oser se comporter comme voilà, maintenant je prends une décision et pas je demande est-ce que je peux.
Ah ouais.
Donc du coup on préfère en fait qu'ils partent déjà aussi voir autre chose, voir comment ça se passe dans la vraie vie, hein. Et puis revenir et dire ah au boulevard c'est quand même vachement bien.
Ouais, parce qu'ils sortent de 3 ans de formation quand même assez particulière dans la librairie, enfin avec leurs camarades de promo, ils vivent pas du tout la même chose entre ceux qui bossent chez Payot et qui restent dans un rayon pendant 8 mois et qui n'en bougent pas et qui font la même tâche pendant 8 mois avec les apprentis au boulevard qui font absolument tout, tout le temps, qui apprennent des milliards de trucs en 3 ans, et puis qui apprennent aussi à côtoyer quand même cette autogestion, qui est l'antithèse totale du management chez Payot. Enfin, c'est,
ou d'autres librairies.
Ou d'autres librairies. Et... ouais, c'est peut-être bien qu'ils voient aussi comment ça se passe ailleurs. Enfin...
Ouais, il y
avait Marc-Aurel. Ah oui. Ouais. Par rapport à Payot, justement, alors ça, quelles sont les différences entre d'organisation notable entre les deux? T'en as déjà dit quelques-unes, mais.
Bah, Payot, c'est l'essence même de la hiérarchie. Vraiment.
Ah ouais?
Oui, oui, vraiment. Après, enfin, chaque. Il y a plusieurs Payots, et donc ça dépend un peu de qui est le gestionnaire, de quel Payot, qui arrive quand même à mettre un peu sa marque, et puis à être plus ou moins dirigiste ou quoi, mais quand même, c'est extrêmement hiérarchisé. C'est l'anti-responsabilité. Enfin, c'est vrai. Tout est fait pour qu'on ne se sente pas responsable.
Alors, il y a des paillots, effectivement, par rayon. Il y a des rayons où les gens sont vraiment maîtres de leur rayon. Mm. Mais ils subissent quand même...
Leur chef de service. Leur chef de service subit le gérant du magasin. Le gérant du magasin subit la RH. La RH subit le big boss de Payot qui tire les ficelles et c'est...
qui a un ego un peu sur les
un ego complètement fou.
Pascal.
Ouais. Mais ouais, donc rien que dans l'organisation, c'est vraiment... c'est deux mondes, quoi. Et il y a vraiment chez Payot, si on veut faire la moindre exposition de livres, mettre une affiche, faut demander à telle personne qui va demander à telle personne, ça va être discuté, ensuite ça va revenir vers nous, non quand même une affiche là c'est pas dans nos habitudes, voilà, enfin, tout prend une proportion complètement dantesque, quoi. Donc c'est, je trouve, dans le travail en tout cas, c'est la principale différence. Après il y en a plein d'autres sur nos choix de livres, le fait que nous on est vraiment pas porté sur les opérations commerciales, enfin on fait pas de promo, on fait pas de trucs comme ça. Chez Payot c'est un peu la base, on met pas en avance des best-sellers qui de toute façon se vendent tout seuls.
Non, des embouilles certains.
Bon, on les met pas en avant, enfin, on fait pas des piles de
d'éclairs, on fait
des piles.
Mais c'est pas un best-seller. Chez vous, c'est pas un best-seller. Hein.
Ça marche pas si bien.
Non, on avait quand même Houellebecq.
Après, il y a des gens qui, justement, au Welbeck, c'était un de ces sujets où il y a une personne qui a mis une pile. Il y a d'autres qui les ont mis dans l'escalier, juste mis un sur la tronche, un peu caché, comme ça on l'a, mais on ne le montre pas. Donc voilà, ça c'est des petits jeux. Voilà, et après, ça revient sur la pile. Et on part. C'est assez jouissif des fois.
Ouais, moi je voulais revenir sur le
Juste, est-ce qu'on peut ouvrir encore une fenêtre?
Je sais pas si
moi je crève
toujours. Ouais. Une fenêtre juste derrière vous. Ouais, il suffit de tourner la poignée.
Voilà. Et puis vous c'est.
Alors, il faut tirer plus.
Ah
voilà.
Ouais. Ouais, moi je voulais revenir sur l'intégration des nouveaux. Alors, les apprentis ne sont pas les mêmes que les collaborateurs. Je comprends bien que là, il y a une différence, mais est-ce que quand ils arrivent, les apprentis, vous avez un document à leur fournir? Comment vous les accompagnez dans les premiers pas dans ce nouveau monde de l'autogestion? Ça, c'est une première partie. Et la deuxième, c'est, par exemple, si vous avez un des salariés, donc un des collaborateurs qui part en vacances 2 semaines, 3 semaines, qui revient, des fois, c'est difficile de raccrocher à la dynamique de la coopérative et moi des fois dans certains groupes il y a des gens qui partent un moment, qui reviennent et qui se posent beaucoup de questions quant à leur légitimité à être là. Justement, vous parliez tout à l'heure que c'est difficile pour un apprenti de devenir employé parce que y a un équilibrage qui se fait mal. Comment est-ce que vous avez des clés à nous fournir pour gérer ce genre de choses pour une bonne intégration dans un contexte d'autogestion pour des gens qui n'ont peut-être pas l'habitude de ça et qu'il faut peut-être un peu bousculer dans leurs habitudes et dans leur zone de confort?
Alors, bon, déjà pour les apprentis, donc les apprentis ils ne sont pas autogérés, alors ils sont vraiment gérés par nous.
Ouais, vous êtes
donc, ils subissent, comme Marianne avait dit, l'autogestion. Donc ils ont 7 patrons qui ne disent pas nécessairement la même chose. Et ils voient que nous on échange beaucoup, mais en fait ils ont leur plan de formation qu'on suit. Voilà, ils ont vraiment. On les intègre, mais vraiment, on est des maîtres d'apprentissage.
D'accord.
Pour eux. Donc, c'est vraiment... Ils participent à notre réunion.
Ouais.
Parce qu'à la fin, voilà, avant de partir, s'ils veulent, voilà, on les invite et on leur dit, bah, voilà, tu peux une fois participer, mais c'est plus par intérêt, c'est pas pour la formation en soi. Et puis, c'est pas tout le monde, en plus, qui a envie de faire ça, hein, c'est très clair. C'est... La moitié à peu près qui trouve ça intéressant, l'autre moitié n'en a rien à cirer.
Ok.
Donc, ouais, disons, c'est quand même.
C'est forcément chez vous, par rapport au fait que vous soyez.
Non, c'est des libraires, disons, franchement, il n'y en a pas beaucoup de place d'apprentissage pour les libraires. La plupart des gens qui postulent chez nous ne savent même pas qu'on est un collectif autogéré, ils n'ont même pas regardé sur le site. Donc voilà, ils disent, ah ben bah, ça a l'air intéressant. Voilà. Ah, vous avez des livres politiques? Ouais. Non. Ouais.
Ça me gêne pas.
Sérieux? Ah ouais. Non mais en général on dit, alors si vous votez, on demande pas un brevet de parti, mais si vous votez au UDC, ça risque d'être un peu difficile chez nous. En général, on n'a pas des gens comme ça, mais on leur dit quand même, on n'est plus militant, mais on est quand même fortement ancré quelque part à gauche, entre l'extrême et la très peu extrême gauche. Donc voilà, le choix de livre, ça se reflète là-dedans. Mais voilà, ils sont. Non.
Ouais, au-delà de ça, ils ont une formation tellement cadrée, avec leurs cours. Nous aussi, on a, je pense, une espèce de plan un peu d'apprentissage en première année, il faut qu'ils acquièrent telle compétence, deuxième année telle compétence, troisième année telle compétence. Alors du coup on est un peu aussi pris là-dedans, on est très bons élèves là-dessus quoi.
Ouais.
Donc, voilà. Par contre sur l'intégration des nouveaux, c'est différent.
Alors pour les vacances, en fait, on n'a pas vraiment ce cadre ou très exceptionnellement parce qu'en fait on prend tous les vacances en été. C'est une question d'organisation. En été, il y a moins de monde, donc on ferme la librairie partiellement. Donc du coup, tout le monde peut prendre des vacances sans que les autres qui sont là doivent faire des heures sup. Donc on fait 8 semaines de vacances pour tout le monde et quand on revient, on recommence tous plus ou moins à zéro. Et entre-temps, on note dans notre carnet tout ce qui arrive. Il y avait des gens qui ont pris les congés sabbatiques ou qui étaient en arrêt maladie ou en congé maternité. Donc ça, c'est c'est plutôt ce qui, voilà, pour les vacances, qu'on pourrait comparer à des vacances de longue durée. Et en fait, ça dépend des deux côtés, je dirais. Et puis, voilà, pour les nouveaux aussi, disons, nous, on essaye de laisser une place pour ceux qui reviennent, pour ceux qui sont nouveaux, nouvelles. Mais il faut aussi que la personne prenne la place. Oui. Et s'intéresse à qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, depuis mon absence, de lire à la rigueur dans le carnet, de reprendre contact, de rediscuter, vous avez fait ça et ça. Après, ça dépend des cas, il y a des gens qui étaient là pendant assez longtemps, mais qui avaient un accident, qui ont quand même essayé d'être là les lundis à la réunion, sans être là à tout ce qui se passait. Vraiment concrètement dans le magasin. Mais en fait, effectivement, l'intégration des nouveaux, on essaye de laisser une place. Après, ça dépend des gens qui ont une habitude déjà de tchatcher et puis de prendre des décisions qui viennent de la société. C'est plus facile que pour d'autres. Ouais. Disons, pour toi, je trouve que ça a l'air plus facile que pour Aurore, par exemple.
Effectivement, l'arrivée dans une entreprise qui est autogérée, c'est hyper différent qu'arriver dans une entreprise où on a juste un poste et des tâches très définies et en plus une hiérarchie parce que quand même ça repose vachement sur les personnalités des uns et des autres et faire sa place, ça veut dire aussi oser du coup prendre la parole au milieu de ce collectif et oser dire les envies qu'on a, nos goûts, nos façons de fonctionner. Et c'est pas, effectivement, ça dépend énormément de si on est à l'aise à parler en public ou si pas du tout. Et dans ce cas-là, y a un peu une tendance à s'effacer derrière le collectif. Mais en tout cas, il y a vraiment cette problématique qu'effectivement, on peut pas déléguer. Donc on délègue rien à une autorité. Donc c'est quand même un peu plus intimidant parce que oui, il faut quand même faire sa place, quoi. Il faut quand même un peu être là, quoi. Il faut se responsabiliser.
Et effectivement, en plus, on les lâche très, très facilement. Genre, tu vas y arriver. Genre, débrouille-toi. Après, c'est à la personne de dire, est-ce que tu pourrais quand même montrer un peu comment fonctionne notre système informatique. On essaie de dire, je crois que je dois t'expliquer deux, trois trucs. Mais c'est à part ça, effectivement, ça. Donc l'autogestion, c'est pas un concept figé, au moins comme nous on l'entend. C'est vraiment, ça change avec chaque personne qui est là. Donc entre l'autogestion quand je suis arrivée, donc il y a 20 ans en arrière, et ce qu'on fait maintenant, ça, je dirais pas, ça a évolué, ça a changé. Donc c'est vraiment, chaque personne apporte autre chose et du coup tout le collectif bouge et atterrit à une autre place, et puis une personne part et puis ça rebouge, une autre personne vient, ça rebouge. Donc c'est très très dynamique et très donc il n'y a pas, ouais, donc il faut faire avec les personnes qui sont là et adapter.
Il y avait juste,
c'était moi qui
attendais.
J'ai encore une question pour venir en complément de ce qui a été abordé, mais pas arrivé encore précisément sur l'idée que j'avais, qui était l'arrivée d'une nouvelle personne. Donc j'imagine qu'il y a une forme de contact qui vient de l'extérieur, donc des personnes qui viennent vous voir, pour vous dire j'aimerais bien bosser avec vous, à un moment ou à un autre. Vous êtes 7 à y vivre. Malheureusement, là, je décompte les deux apprentis, mais bon, vous êtes 7 à y vivre. La ligne évoluée, et est-ce que cette arrivée de personne se fait, cet accord de l'arrivée d'une personne se fait par cooptation entre les sept, ou est-ce que vous prenez quelqu'un simplement parce qu'il a demandé et vous avez par votre comportement, votre travail, la faculté de l'amener forcément à travailler dans le sens de ce que fait déjà la boîte et dans l'harmonie aussi.
Moi typiquement je suis allée vers le boulevard de moi-même pour dire que j'avais vachement envie de travailler avec eux parce que je connaissais leur principe d'autogestion, que j'avais fréquenté la librairie, etc. Et Et du coup, j'ai quand même passé un entretien d'embauche avec 6 personnes en face de moi. ce qui est hyper impressionnant. Et,
non, tu avais d'abord passé un avec 2 personnes en face de toi.
Ouais, mais vous n'aviez pas pris après.
Oui.
Et donc, je suis revenue acharnée. Cette fois-ci, ça a marché. Mais oui, bah, j'imagine qu'à l'issue de cet entretien devant 6 personnes, les 6 personnes du collectif doivent discuter entre elles, de voir quel est le feeling qu'on a avec...
Parce que ça tient essentiellement parce qu'il y a une forme d'harmonie en fait entre les uns et les autres. Donc c'est très facile, et ça je le vis en ce moment, hein, mais c'est très facile de briser justement cette harmonie de l'équipe. Ouais.
Alors je dirais pas qu'il y a une harmonie, ça
se
dit
beaucoup
trop. Oui, d'accord. Parce que disons, on est quand même. Pour vivre dans l'autogestion, il faut quand même être des fortes têtes. Donc, c'est assez harmonieux, mais on n'est pas dans voilà, il y a
du soleil. Je dis pas ça, je dis l'harmonie peut être bruyante. D'ailleurs, musicalement, elle l'est. D'accord. Donc, pourquoi pas celle-là
Voilà. Dynamique, quoi, ça pourrait briser la
dynamique
du groupe.
Parce que moi, je travaille dans une boîte privée, bien entendu, donc où on a eu la chance, pendant un certain temps, de pouvoir choisir nos collègues. Ce qui n'était pas du tout prévu par la boîte, hein, mais on s'est arrangé pour ça, on a choisi nos collègues, on a élu notre chef. On avait fait 2-3 trucs comme ça.
Une boîte privée pas simplement sympa.
Et ils ont vite arrêté le bousin après, hein, parce qu'ils n'ont pas supporté. Et donc du coup, la dernière embauche qu'il y a eu a été faite sans consulter aucun des membres de l'équipe. Et c'est justement en question de feeling, c'est l'embauche ratée, quoi, par excellence. Quoi. Donc, c'est ça que je craignais, en fait, dans votre librairie.
Non, alors effectivement, on invite les gens. Alors en général, ça dépend pour quel sujet ou dans quelle situation on est, mais en général, il y a un mini-groupe de 2 personnes qui fait un premier tri. Donc quand on ouvre un poste, pour ainsi dire, ou quand quelqu'un part, et puis donc pour justement pas présenter la personne tout de suite devant si personne. Donc, qui font un premier tri qui après argumente devant le groupe, voilà pourquoi il dirait plutôt d'inviter. En général, on fait un choix entre 2-3 personnes, d'inviter ces personnes. Et après, voilà, on les invite. Et il y avait vraiment des gens où les gens sont arrivés et puis sont partis. Et puis une personne du collectif a dit : je peux pas. Non, là ça me crée. Je peux pas. Donc des fois c'est vraiment aussi juste vraiment le feeling. Alors peut-être c'est un super libraire, mais non, ça n'a pas marché. Donc et après voilà, c'est difficile après si on dit ah ouais plutôt celle-là ou plutôt celle-là, là ça devient vraiment difficile.
Puis par contre le principe de l'autogestion il est dit dès le départ, enfin, ça fait aussi partie de la discussion de l'entretien, de voilà nous on fonctionne comme ça, est-ce que t'es ok, est-ce que tu sais en quoi ça consiste, enfin, c'est quand même quelque chose à savoir. Et même si effectivement les principes de l'autogestion sont pas écrits, il n'y a rien qui est figé dans le marbre, faut quand même adhérer à ces principes. Si on n'y adhère pas du tout, ça va pas tenir très longtemps. Et si on y adhère mais qu'on n'a aucune idée de comment ça marche, en fait, ben on l'apprend par contre jour après jour. Et puis c'est au fil des mois qu'on comprend un peu l'esprit du lieu, comment ça s'est construit. Puisque comme rien n'a été écrit, c'est un peu la tradition orale, quoi. C'est vraiment, on apprend un peu bout par bout comment ça s'organise.
Quasi tribal.
Mais ouais, la question de l'autogestion, elle est forcément posée. Enfin, c'est important de la poser dès le début de l'intégration d'une nouvelle personne, parce que c'est. Ça détermine tout après l'organisme, tout le quotidien du travail.
Et puis effectivement, il y avait une fois, on avait engagé quelqu'un qui était super politisé, mais l'autogestion, surtout, disons, l'autogestion ne posait pas le problème. Ce qui posait le problème, c'était le consensus. Il n'arrivait pas à discuter, à arriver à un consensus. Il disait, mais laisse, votons. Donc, il voulait tout. Donc, ça commençait vraiment à crisper en fait tout le monde, parce qu'il n'avait pas la patience de dire ok, on revient là-dessus, on refait encore une fois. Non, il voulait dire non, mais là, ça se fuit, on vote. Non. Donc, mais c'est, voilà. Je sens la différence maintenant qu'il est de nouveau parti, où tout à coup ça devient plus harmonieux. Voilà. Où on se dit, ah ouf, en fait j'ai plus peur de me dire, oh le lendemain matin, oh, que ça va être horrible. Ouais. Je dis, ah ouais, c'est le lendemain matin, voilà.
Et donc ça c'était pas prévisible. Le personnage qui est arrivé, il n'a pas été perçu comme ça.
Non, parce qu'il est, il avait l'air. C'est, à part ça, c'est, voilà, c'est un chef cadre, on l'a engagé, militant, libraire, mais sur ce point-là, ça ne marche pas. Ouais.